Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet clé pour les lycéens en première année de bac science, un résumé sur la dérivabilité des fonctions numériques.
Bonjour.
L'idée, c'est pas juste de lire ce résumé, hein. On va essayer de décortiquer ça ensemble, de voir ce qu'est une dérivée, comment on la calcule et puis surtout à quoi ça sert concrètement. Pas besoin d'être un pro des maths pour suivre, on va y aller pas à pas.
Oui, tout à fait. Et c'est important de voir les dérivées pas juste comme un chapitre de maths, mais vraiment comme un outil fondamental en analyse. Ça permet de modéliser, de comprendre les variations, les taux de changement.
Le changement instantané, c'est ça?
Exactement. C'est vraiment la base pour étudier comment une fonction se comporte très localement, autour d'un point précis.
Bon, alors, allons-y. Commençons par les généralités. Le résumé, il démarre avec la définition. Une fonction f est dérivable en x0 si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0, quand x tend vers x0, si cette limite est un nombre réel fini. Bon, ce taux d'accroissement-là, f de x moins f de x0 sur x moins x0, avant même la limite, qu'est-ce que c'est intuitivement?
Ce rapport, au fait, c'est juste la pente de la droite qui passe par deux points de la courbe, le point x0 f de x0 et un autre point x f de x qu'on imagine tout proche.
Ok, une pente moyenne entre deux points, quoi.
C'est ça. Ça mesure la variation moyenne. Et l'idée géniale de la dérivée, c'est de regarder ce qui se passe quand ces deux points deviennent presque confondus, quand x est infiniment proche de x0.
Et si cette pente moyenne tend vers une valeur bien définie, finie, on l'appelle le nombre dérivé, f' de x0.
Précisément. Et ce nombre, f de x0, il a une interprétation géométrique super importante. C'est la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse x0.
La tangente, cette droite qui colle à la courbe en ce point-là.
Exactement. Celle qui effleure la courbe et qui donne la direction de la courbe à cet endroit précis. C'est une mesure de la vitesse instantanée de variation de la fonction en x0, si vous voulez.
D'accord. D'où l'équation de la tangente que le résumé rappelle. Y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. C'est logique. C'est l'équation d'une droite qui passe par le point x0 f de x0 et qui a pour pente ce fameux f' de x0.
Tout à fait. Ça nous donne une approximation linéaire, une sorte de zoom très local sur la fonction.
Et le résumé parle aussi du cas où la limite n'est pas finie, où elle vaut plus infini, moins infini. Qu'est-ce qui se passe alors?
Ah oui, ça c'est intéressant. Géométriquement, ça veut dire que la courbe devient quasiment verticale quand on s'approche de x0.
Verticale.
Oui, la pente devient infinie. On parle alors de demi-tangente verticale. En gros, la fonction change trop vite, trop brutalement, à cet endroit pour qu'on puisse lui donner une pente finie, une direction classique.
Ok, donc ce sont des points un peu spéciaux. Ensuite, le résumé passe à la dérivabilité sur un intervalle. Intervalle ouvert, bon, c'est simple, il faut être dérivable partout. Mais pour un intervalle fermé, AB, il y a cette histoire de dérivabilité à droite en A et à gauche en B. Pourquoi cette distinction?
Pour calculer la limite du taux d'accroissement en un point, normalement, il faut pouvoir s'approcher par la droite et par la gauche, par des valeurs plus grandes et plus petites.
Oui.
Mais on a, qui est le début de l'intervalle AB, on ne peut s'approcher que par des x plus grands que A, en restant dans l'intervalle. Donc, on ne peut calculer qu'une limite à droite.
Ah, d'accord.
Et pareil pour B. À la fin de l'intervalle, on ne peut s'approcher que par des x plus petits que B, donc limite à gauche. C'est une petite adaptation technique pour pouvoir parler de dérivabilité aux bornes.
Je vois. Et si la fonction est dérivable sur tout l'intervalle i, alors on peut définir la fonction dérivée, f', une nouvelle fonction qui, à chaque x de i, associe la pente en ce point x.
Exactement. Et ça, c'est puissant, parce qu'après, on peut même dériver cette fonction dérivée. Ça donne la dérivée seconde, f', puis la troisième.
Les dérivées successives, f nème de x.
Voilà. Ça donne des informations encore plus fines, sur la courbure par exemple, comment la courbe tourne. Mais bon, ça c'est peut-être pour une autre fois.
Restons sur la dérivée de première, f'. Comment on la calcule? Alors, le résumé donne un tableau, les fameuses dérivées des fonctions usuelles, celles qu'il faut apprendre par cœur, j'imagine.
Mais oui, ce sont les briques de base. Par exemple, la dérivée d'une constante, c'est zéro.
Logique, ça varie pas.
Voilà. Puis les puissances, la dérivée de xn, c'est nxn moins 1. Ça, c'est fondamental. Pour x carré, 2x. Pour x cube, 3x carré, etc.
Le tableau mentionne aussi 1 sur x qui donne moins 1 sur x au carré et racine de x qui donne 1 de racine de x. Pour la racine carrée, il y a un petit truc, non, au niveau du domaine.
Ah oui, très bonne remarque. La fonction racine carrée, f de x égale racine de x, elle est définie pour x supérieur ou égal à 0. Mais sa dérivée, f' de x égale 1 sur 2 racine de x,
elle n'est définie que pour x supérieur à 0 ?
Exactement. En x égale 0, la fonction racine de x existe, elle vaut 0, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Si vous regardez la courbe, elle part de l'origine avec une tangente verticale.
Ah oui, ça rejoint ce qu'on disait sur les tangentes verticales.
Tout à fait. Ça montre bien qu'une fonction peut être continue sans être dérivable. La dérivabilité, ça demande une certaine douceur. Pas de point anguleux, pas de tangente verticale.
Ok, point important. Le domaine de dérivabilité peut être plus petit que le domaine de définition. Le tableau finit avec les fonctions trigo. Sinus de x devient cosinus de x et cosinus de x devient moins sinus de x.
C'est ça. Ces relations sont cruciales pour tout ce qui est oscillation, phénomène périodique. Bon, une fois qu'on a ces briques de base...
On passe aux opérations. Comment on dérive des fonctions plus compliquées ? Pour la somme ou la différence, u plus v, c'est simple, u prime plus v prime. La dérivée passe à travers, quoi.
Oui, ça c'est la linéarité, c'est pratique. Mais attention, pour le produit et le quotient, c'est plus subtil.
Ah oui, la dérivée de uv, c'est pas u'v', c'est u'v plus uv'. Et celle du quotient u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Oula, celle-là, elle a l'air d'être une source d'erreur fréquente. Hein.
C'est clair. Le produit et le quotient, faut vraiment les maîtriser. Pourquoi c'est pas juste u'v' ou u'v ? Bah, c'est lié à comment les variations interagissent.
C'est-à-dire ?
Pour le produit uv, quand x change un peu, la variation globale dépend de comment u varie, ça affecte v, et de comment v varie, ça affecte u. Les deux contributions s'ajoutent, d'où le u'v plus uv'.
D'accord.
Et pour le quotient, c'est une logique similaire, mais un peu plus complexe à cause de l'inverse. Le plus important, bien retenir la structure u'v moins uv' et surtout, ne pas oublier le v carré au dénominateur.
Ok, mémoriser et appliquer rigoureusement. Le résumé donne aussi des cas particuliers comme un prime égale nu prime un moins 1 ou racine de u prime égale u prime sur 2 racine de u. Ce facteur u prime qui apparaît partout, il sort d'où ? Il vient d'une règle plus générale.
Exactement. Il vient de la règle fondamentale pour combiner les fonctions, la dérivation des fonctions composées. On l'appelle souvent la règle de la chaîne ou chain rule.
Ah oui, la fameuse uv prime égale v prime sur u prime ov. Le résumé dit qu'elle est très puissante, mais elle peut paraître un peu abstraite comme ça. On peut essayer de la sentir un peu.
Alors, imaginez que vous avez une fonction dans une fonction. Disons, y dépend de u et u dépend de x. On écrit y égale f de u de x. On veut savoir comment y varie quand x varie, n'est-ce pas ?
Oui.
Ben, intuitivement, la variation globale va dépendre de deux choses. 1. À quelle vitesse y change quand u change ? Ça, c'est f' du, ou u dans la notation du résumé. Et 2. À quelle vitesse u change quand x change ? Ça, c'est u' de x, ou v' dans la notation.
D'accord. Et on les multiplie ?
Voilà. La variation globale est le produit de ces taux de variation successifs. Pensez à des engrenages. La vitesse de rotation finale dépend de la vitesse du premier engrenage multipliée par les rapports de transmission successifs. C'est ça la règle de la chaîne. U rond V prime de X égale U prime de V de X fois V prime de X. Le U qui apparaît dans U à la puissance N ou U racine de U vient de là. C'est la dérivée de la fonction intérieure U.
Ok, ça commence à faire sens. Bon, on a vu comment calculer. Maintenant, la question qui tue. À quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce que la dérivée nous dit sur la fonction ? Première application dans le résumé, la monotonie, les variations.
Oui. C'est l'application la plus directe et la plus visuelle. Le signe de la dérivée f' nous dit si la fonction f monte ou descend.
Simple comme bonjour.
Presque. Si f' de x est strictement positive sur un intervalle, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Si f' de x est strictement négative, f est strictement décroissante. Et si f' de x est nul partout sur l'intervalle, alors f est constante.
Donc, en étudiant juste le signe de F', on peut dessiner l'allure générale de F, faire son tableau de variation.
Exactement. C'est un outil hyper puissant pour comprendre le comportement global d'une fonction.
Deuxième application, les extrémums, les maxima et minima locaux, les bosses et les creux sur la courbe. Quel est le lien avec la dérivée?
Alors, si une fonction f est dérivable et qu'elle atteint un maximum ou un minimum local en un point x0, qui n'est pas une borne de l'intervalle, sa tangente en ce point doit être horizontale.
Horizontale, donc pente nulle.
Voilà. Donc, condition nécessaire. S'il y a un extrémum local en x0, alors f' de x0 égale 0. Le sommet d'une colline ou le fond d'une vallée, si c'est arrondi, la pente est nulle à cet endroit précis.
Mais le résumé dit bien, attention, f' de x0, ça ne suffit pas. Il y a l'exemple de f de x égale x au cube en x égale 0. La dérivée, f' de x égale 3x au carré, vaut 0 en 0, mais il n'y a pas d'extrémum là. La courbe traverse juste l'axe horizontalement.
Tout à fait. C'est le contre-exemple classique. Avoir une tangente horizontale, ça ne garantit pas un sommet ou un creux. Ça peut être juste un point d'inflexion à tangente horizontale, comme pour x au cube.
Alors comment on fait pour être sûr? Quand est-ce que f' de x0 implique vraiment un extrémum?
La clé, c'est de regarder ce qui se passe autour de x0. Si f' de x0 est égal à 0 et si la dérivée f' change de signe quand on passe par x0, alors c'est un extrémum local.
Ah, le changement de signe.
Oui. Si f' est positive avant x0, ça monte, et négative après, ça descend, alors f de x0 est un maximum local. Si c'est négatif avant et positif après, ça descend puis ça monte, c'est un minimum local. C'est ce changement de sens de variation qui fait l'extrémum. Pour x cube, la dérivée 3x carré est positive avant 0 et positive après 0. Elle s'annule juste en 0. Elle ne change pas de signe, donc pas d'extrémum.
Ok, c'est beaucoup plus clair. Il faut les deux, dérivée nulle et changement de signe de la dérivée. Bon, dernière application mentionnée, les équations différentielles. Le résumé dit que c'est une égalité qui lie une fonction et ses dérivées. Là, on entre dans un autre domaine, non?
Ah oui, complètement. Les équations différentielles, c'est un univers en soi. L'idée, c'est que l'inconnu n'est plus un nombre, mais une fonction. Et l'équation décrit une relation entre cette fonction et comment elle change, c'est-à-dire ses dérivées.
Et ça sert à quoi, hein?
C'est le langage fondamental pour décrire l'évolution des systèmes dans le temps ou l'espace. Presque tous les phénomènes physiques, chimiques, biologiques qui évoluent peuvent être modélisés par des équations différentielles. La croissance d'une population, la propagation de la chaleur, les circuits électriques, la mécanique céleste.
Impressionnant. L'exemple donné est y seconde plus oméga carré y égale 0, où y est la fonction qu'on cherche et y seconde sa dérivée seconde. Et une solution donnée est y de x égale a cos oméga x plus b sin oméga x. Ça représente quoi ça?
Cette équation, c'est l'équation type de l'oscillateur harmonique. C'est le modèle mathématique de base pour tout ce qui oscille de façon régulière. Une masse au bout d'un ressort, un pendule pour de petites oscillations, un circuit RLC.
Ah, les oscillations!
Exactement. L'équation dit que l'accélération, la dérivée seconde de la position Y, est proportionnelle à la position Y, mais avec un signe moins. C'est ça qui crée l'oscillation. Et les solutions, ces combinaisons de cosinus et sinus, décrivent parfaitement ce mouvement périodique. Trouver ces solutions, c'est résoudre l'équation différentielle. C'est un exemple simple, mais qui montre la puissance du truc. Une relation entre y et y seconde capture l'essence d'un phénomène physique.
C'est fou. En fait, même chercher les extrémums en posant f' de x égale 0, c'est déjà résoudre une équation différentielle très simple, non?
D'une certaine manière, oui. On cherche les fonctions constantes qui satisfont f' de x égale 0. Mais bon, c'est vraiment le béaba.
Bon, alors, récapitulons un peu tout ça. On a vu la dérivée. C'est la pente de la tangente, un taux de variation instantané. On a vu comment la calculer avec les dérivées usuelles et les règles d'opération, surtout cette fameuse règle de la chaîne.
Oui.
Et on a vu à quoi ça sert. Le signe de f' donne les variations de f. L'annulation de f' avec changement de signe aide à trouver les sommets et les creux. Et les dérivées sont au cœur des équations différentielles qui modélisent plein de choses.
C'est une excellente synthèse. Le message clé, c'est vraiment que la dérivée, c'est l'outil mathématique pour quantifier le changement instantané. Au-delà des formules, c'est cette capacité à lier le local, la pente, au global, les variations, les extrémums, et à modéliser l'évolution qui en fait un concept si puissant. Maîtriser les dérivées, ça ouvre vraiment une nouvelle façon de comprendre les fonctions et les phénomènes qu'elles décrivent. C'est central en science.
Et pour finir, une petite question pour réfléchir. On a parlé de dérivabilité à droite, à gauche, de tangente verticale. Tout ça suggère qu'être continu, ne pas avoir de trou, et être dérivable, être lisse, sans angle, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on peut imaginer une courbe qui est continue en un point, mais qui fait un angle sec, un coin ? On sait à la fonction valeur absolue, x. En x égale 0, la courbe est bien continue, pas de saut. Mais elle fait une pointe, non ? Que vaut la pente juste à droite de 0 et juste à gauche ? Sont-elles les mêmes ?
Ah, excellent exemple. Juste à droite, la fonction est y égale x. La pente est 1. Juste à gauche, c'est y égale moins x. La pente est moins 1.
Donc, pas la même.
Pas la même. Donc la limite du taux d'accroissement n'est pas unique en 0. La fonction x est continue en 0, mais pas dérivable en 0.
Voilà. De quoi méditer sur cette différence subtile entre continuité et dérivabilité. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.